Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de La Clé des Songes. Pour démarrer cette série de podcasts liés au sommeil et aux rêves, j'ai choisi de parler d'un phénomène que beaucoup de personnes connaissent, ou en tout cas pensent connaître. Ce qui est sûr, c'est qu'il est assez évocateur et que pratiquement tout le monde a une image mentale assez claire de ce que c'est. Alors, avant de décrypter ensemble le sujet du jour, je vous laisse avec le témoignage de Stéphanie. Elle a 34 ans, elle est originaire d'Anvers et elle vit ce phénomène depuis sa plus tendre enfance. Écoutez.
Je ne sais pas dire l'âge précis auquel ça a commencé, mais j'en ai depuis que je suis toute petite. Donc pour moi, ça pourrait très bien être depuis l'âge de 2 ou 3 ans, mais j'ai des souvenirs de moi étant très petite. Les plus anciennes choses que je me rappelle, quand j'étais petite, j'appelais toujours ma maman quand j'allais faire pipi. Un peu comme ma fille fait maintenant, donc j'appelle « Maman, maman, je vais faire pipi !» Et elle me dit « Ben vas-y, je te rejoins !» Parce qu'en fait, je devais passer devant sa porte pour aller aux toilettes. Et il y a plusieurs fois où elle ne m'a pas vu passer, donc à un moment donné, elle se lève, elle vient voir. Et je me rappelle très bien, j'ai fait pipi sur ma chaise de bureau. J'ai déjà fait pipi dans la garde-robe de chez ma grand-mère, parce que là aussi j'allais réveiller ma grand-mère. Et au lieu de tourner, je veux dire, à droite après le lit, j'allais à gauche, j'ouvrais la porte et je m'asseyais dans la garde-robe. Donc ça, étant petite, c'était vraiment les choses qui m'ont marqué le plus.
Contrairement à la majorité des personnes, l'expérience de Stéphanie ne s'arrête pas à l'enfance.
Étant grande, étant adulte, j'ai déjà frappé François parce que je ne le reconnaissais pas. Et je ne savais pas qui était l'homme qui se trouvait dans ma chambre. Et tellement que j'ai eu peur, j'ai voulu me défendre et j'ai tapé dessus. Il m'est déjà arrivé où là j'ai quand même vraiment ri, où j'arrive en plein milieu de la nuit dans la chambre de maman et je m'énerve, je monte sur le lit et puis je dis « La vaisselle n'est pas faite, il y a plein de spaghettis partout !» Je me rappelle aussi maman une fois qui vient en plein milieu de la nuit, « Qu'est-ce que tu fais ?» Je regardais la télé, qui me dit « Mais il est 3h au matin, on ne regarde pas la télé !» Et moi j'étais toute droite assise dans le canapé en train de regarder la télé et je ne me rends pas compte. Le fait que j'ai déjà frappé François parce que je ne savais pas qui il était, c'est quand même, ça fait un peu peur. Donc parfois, quand je suis seule à la maison, je me suis déjà posé la question, tiens, est-ce que je mettrais pas, entre guillemets, une batte de baseball ou quoi à côté de mon lit? Mais jamais je n'oserais, peur de m'en servir inconsciemment.
Le somnambulisme. Comme je vous l'ai dit, cela vous évoque certainement quelque chose. On connaît tous quelqu'un qui fait ou qui a fait des crises à un moment donné dans sa vie, si ce n'est pas votre cas. Pourtant, ce trouble du sommeil est souvent méconnu, voire confondu avec d'autres troubles qui lui ressemblent. Pour nous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit, j'ai rencontré Mélanie Strauss, neurologue à l'hôpital universitaire Erasme à Bruxelles. Je vous propose de commencer simplement par définir ce terme.
Le somnambulisme, c'est un trouble du sommeil qui se caractérise par un état dissocié avec à la fois, alors que l'on est endormi, des états de sommeil au niveau du cerveau, mais aussi des états d'éveil. Et donc on a cette dissociation au niveau cortical qui va générer des comportements, souvent moteurs, mais parfois même complexes, alors que l'on est endormi et qu'on n'a pas conscience de ce que l'on est en train de faire.
Concrètement, le somnambule est une personne qui, pendant son sommeil, est capable de se mouvoir. Cela peut aller de simples mouvements, sans quitter son lit, jusqu'à se déplacer dans sa maison, utiliser des objets, et même échanger avec des personnes de son entourage. Ce trouble touche principalement les enfants, et parmi les 6-12 ans, on estime à environ 15% à 40% les enfants qui peuvent vivre une crise.
Il y a un tiers des enfants qui peuvent manifester des signes qu'on appelle de parasomnie, et donc de ces états un peu dissociés entre l'éveil et le sommeil. Alors ça peut être le somnambulisme, ça peut être des terreurs nocturnes pour les plus fréquentes. Mais donc c'est vraiment très fréquent chez l'enfant. Et avec l'adolescence, lorsqu'on est adulte jeune, ça va progressivement s'estomper.
Le somnambulisme rentre dans la catégorie des parasomnies. C'est en fait un ensemble d'événements comportementaux ou psychiques indésirables qui se produisent durant le sommeil, ou bien la frontière entre l'éveil et le sommeil. Le somnambulisme est souvent confondu avec d'autres parasomnies semblables. Les plus courantes, ce sont les terreurs nocturnes, les troubles du comportement en sommeil paradoxal et la somniloquie. Commençons par les terreurs nocturnes. Il y a en fait peu de différence avec le somnambulisme. Ils se produisent tous les deux durant le sommeil lent profond, donc environ 1 à 3 heures après l'endormissement, et ils concernent surtout les enfants. La différence résulte dans le type de crise qu'ils génèrent. Les crises de somnambulisme sont relativement calmes, alors que les terreurs nocturnes provoquent des angoisses et beaucoup d'agitation durant le sommeil. En ce qui concerne les troubles du comportement en sommeil paradoxal, la différence se retrouve directement dans le nom. Comme dit juste avant, le somnambulisme appartient au sommeil lent profond, tandis que le trouble du comportement en sommeil paradoxal, comme son nom l'indique, se produit durant le sommeil paradoxal, c'est-à-dire la phase du sommeil durant laquelle nous rêvons. En dehors de cela, les crises sont assez semblables. Et enfin, la somniloquie, c'est le fait de parler pendant son sommeil. Et même si les somnambules peuvent parler durant leur sommeil, ce n'est pas un facteur suffisant pour les considérer comme tels. Tous ces troubles, bien que différents, ne sont pas forcément exclusifs. Ils peuvent se compléter et une personne peut bien sûr les accumuler au cours d'une vie.
Il y a vraiment un continuum et des personnes qui vont toute la vie parler un petit peu dans leur sommeil ou de temps en temps bouger, se lever, mais ça va rester très rare et souvent donc ça s'estompe avec l'âge. Et puis d'autres personnes qui... dès le départ, on va avoir des manifestations très importantes avec des déambulations, se mettre à avoir des comportements justement potentiellement dangereux, de sortir de la maison, etc. Et associés souvent à des rêves très intenses, voire des cauchemars, voire des terreurs nocturnes. On peut avoir à la fois être somnambule et avoir des terreurs nocturnes. Et donc évidemment, ça va être assez épuisant.
Bon, maintenant, vous vous posez certainement une question. Si le somnambule est capable de se déplacer librement durant son sommeil, jusqu'à par exemple faire pipi dans une armoire, est-ce qu'il y a quand même une certaine limite ? Est-ce que son cerveau a la conscience de dire stop à son corps ? Malheureusement, pas toujours.
Il y a certains cas où effectivement on peut se faire mal à soi-même parce qu'on se met en danger, on se met dans des situations que l'on n'aurait jamais, dans lesquelles on n'aurait jamais été éveillé. Donc il y a plus ce contrôle cognitif du fait de l'endormissement très profond des régions préfrontales. Donc on peut se mettre dans des situations qui sont dangereuses pour soi ou pour les autres.
Mais heureusement, contrairement à d'autres troubles, le somnambulisme peut être traité. En fonction de l'intensité des crises et de l'impact qu'elles ont sur le quotidien du somnambule, il existe différentes solutions adaptées. La première, c'est de veiller à avoir un sommeil de qualité.
Il faut déjà éliminer les facteurs favorisants, ne pas être en dette de sommeil, ce qui arrive souvent chez les jeunes aujourd'hui, avoir un rythme régulier. Il faut également aussi éviter les consommations, alcool ou autres toxiques qui peuvent justement favoriser les micro-réveils la nuit et donc les états un peu dissociés. Il faut limiter les facteurs éveillants ou stimulants juste avant d'aller dormir. Donc c'est bien de ne pas regarder un film d'horreur ou une série extrêmement prenante juste avant d'aller dormir, ça risque après d'être de réactiver un petit peu les choses dans le sommeil. Il y a aussi l'anxiété, le stress quotidien qui a un impact très important sur ces réactivations pendant le sommeil.
Il s'agit d'une solution préalable, donc qui peut servir à prévenir les crises, mais si vous souffrez déjà de somnambulisme et que les crises deviennent un véritable fléau, vous pouvez envisager d'autres solutions.
Après les mesures comportementales, ce qui peut aussi être efficace, et avant les médicaments, c'est l'hypnothérapie. L'hypnose a montré une bonne efficacité, probablement parce qu'elle diminue l'anxiété, mais aussi parce qu'elle met dans un état qui peut être peut-être rapproché un peu du sommeil, avec moins de contrôle cognitif, justement, et donc on se rapproche un petit peu des états dans lesquels on est quand on est... somnambule. Donc il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques qui montrent cette efficacité, mais de façon empirique, ça marche très très bien. Et si après ça ne suffit pas, on peut parfois proposer des médicaments.
Vous en savez désormais plus sur ce trouble du sommeil. Que vous soyez vous-même victime de crise ou que vous connaissiez quelqu'un dont c'est le cas, j'espère que ces informations vous auront éclairé sur le sujet et qu'elles vous seront utiles. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans le monde des rêves et nous intéresserons en particulier aux rêves lucides. Alors, si le sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous dans l'épisode numéro 2 de La Clé des Songes. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.